Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales retour de l'UEFA Champions League avec Paris SG Dortmund, mardi à 21h sur Canal Plus Foot et Real Madrid Bayern, mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
RMC. Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah, yeah, yeah.
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time sur RMC, votre rendez-vous basket tous les mardis en podcast sur rmc.fr avec la Dream Team. Aujourd'hui, Stephen Brun, Arnaud Valadon et Fred Weiss. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Salut mon petit Pierrot.
Salut Pierrot.
Fred Weiss, Arnaud Valadon, que Stephen a rebaptisé The Truth.
Oui, parce qu'il
est arrivé au bureau
avec une veste de Celtics.
Bah, j'aime bien les Celtics, c'est vrai.
T'es aussi polyvalent que Paul Pierce.
J'ai le même shoot dans le béton un peu.
C'est ce qu'il nous a dit.
Il nous dit, il manque que le Bordeaux pour ressemblait vraiment à Paul Pierce.
Est-ce qu'il était... Mon idole, Paul Pierce.
C'est ton idole, Paul Pierce.
Ah, c'est ouais, une de mes idoles. J'ai suivi le basket un peu tard, 15-16 ans. Et les Celtics avec le Big Three, Garnett, Pierce Allen.
Et Garnett, voilà, t'aimes bien Garnett.
Ouais, mais tu l'aimes bien quand il est dans ton équipe. Quand il est dans ton équipe, Fred l'aime bien.
Mais grand basketteur.
T'es plus Paul Pierce ou Marie Pierce?
J'aimais beaucoup Marie Pierce à l'époque. J'étais adolescent, je te rappelle. Peut-être pour ça. Alors, spécial français de la NBA. Voilà un épisode passionnant. Parce que les Français, j'ai l'impression que l'âge d'or est terminé. Et que là, ça va être un podcast douloureux mais nécessaire, messieurs. Car on en veut voir la France briller en NBA. Fournier et Gobert sont-ils en danger ? C'est notre premier thème que l'on va démarrer tout de suite. Ensuite, les jeunes partent-ils trop tôt en NBA ? Longtemps, vous avez été dans le déni sur cette question et je compte sur vous pour ouvrir les yeux.
Parce que toi, tu n'étais pas dans le déni ?
Non, jamais.
M'arrête.
À jamais.
Quel âge, Tony Parker ?
Tu réécouteras. Ah oui, mais Tony Parker,
non, mais
tout le monde n'est pas, tout le monde n'est pas,
oui,
Tony Parker, mon cher.
Tu parles d'âge, tu parles pas de qualité.
Ah, Michel,
tu ne parles pas d'âge.
Ça me fait tellement plaisir. Ça me fait tellement plaisir que tu me poses cette question, Fred. On va enfin remettre l'église au milieu du village. Tout le monde n'est pas Tony Parker, voilà. Tout le monde n'est pas Victor Wembanyama.
Tout le monde n'est pas Kylian Mbappé.
Exactement. Moi, tu me parles pas d'âge. Il faut le dire avec une voix de canard, ah sinon oui, ça ne marche pas. Et puis, vous allez me dire dans la partie historique, quelle est selon vous la saison la plus ratée pour un Français en NBA ? Alors là, évidemment, il faut prendre en compte les attentes. Hein. Parce que des joueurs qui sont passés dans une saison comme des fantômes, il y en a quelques-uns, hein, et pas que des Français. Mais voilà, au vu des attentes, quel est le Français le plus décevant sur une saison en NBA ? Le quiz.
J'ai l'impression que c'est une belle émission positive pour le basket français, Pierrot.
C'est un podcast douloureux mais nécessaire. Douloureux mais nécessaire. On va peut-être dire des choses positives quand même. Hein.
J'espère.
Il y a quelques bonnes perfs cette saison. Le quiz spécial français, bien sûr, pour vous départager. Enfin, de podcast, c'est parti pour un basket time spécial français de la NBA.
Evan Fournier misses. Fournier trying to find an opening, gets all the way inside, blocked by Adams. Fournier sidestep, misses. Batum has to hurry, and Batum with a clutch three.
Just left his Batum wide open.
Batum for three, got it.
This is now their biggest lead of the ball game. Gobert, first three of his career. No.
Alors, c'est la fin de l'âge d'or de la France en NBA, et c'est ce qu'on disait il y a un instant, parce que les têtes d'affiche sont en difficulté et que les jeunes tardent à prendre la place. Le plus inquiétant, c'est peut-être le statut des stars Evan Fournier, plus starter à New York, et Rudy Gobert, alors qu'il a changé de franchise après l'échec Utah, qui se retrouve 11e à l'ouest avec Minnesota. Pour ces deux-là, Arnaud, le début de saison est compliqué. Hein.
On peut parler même de déclassement pour Evan Fournier. Tu l'as dit, il n'est plus titulaire chez les Knicks, une franchise un peu fidèle à elle-même cette saison qui a pris 145 points contre OKC. Tom Thibodeau, le coach, ne fait plus confiance en l'arrière français. Fournier joue aujourd'hui moins de 20 minutes par match et 0 sur 5 contre Denver au tir, 0 sur 5 contre OKC lors de la déroute, 145-135 quand même. Pour Rudy Rudy Gobert, c'est vrai que la situation est légèrement différente. Il joue, il continue de jouer 30 minutes par match, 14 points, 13 rebonds en stats, mais la greffe n'a pas encore pris à Minnesota. La preuve, quand Gobert est sur le parquet, son équipe est en négatif. Moins 13, par exemple, dimanche contre Cleveland quand Gobert était sur le parquet. Et pourtant, les Wolves ont gagné ce match de 5 points. Et ça, c'était quand même la force de Rudy Gobert quand il était à Utah, indispensable sur le terrain pour gagner. Et enfin, quand même, pour terminer sur Nico Batum, role player, dont les attentes sont quand même différentes aux Clippers. Son adresse, 35% au tir, est quand même pas dans ses standards, notamment ce 30% à 3 points, 17 minutes et 3,5 points de moyenne, ainsi que 4 bons et une passe et demie pour Batman.
Le plus inquiétant, évidemment, c'est Evan Fournier.
Écoute, moi, je suis inquiet. Je suis inquiet pour l'avenir d'Evan Onyx, Pierrot. Ça ne me dérange pas que tu sois déclassé, que Thibodeau décide de faire Evan Fournier son leader de la deuxième unité, sauf que là, ce n'est pas le cas, parce qu'Evan, ce n'est même pas la première rotation, ce n'est pas, c'est pas le sixième homme de l'équipe des Knicks. Parfois, c'est Quickley qui rentre avant lui, parfois, c'est Grimes qui rentre avant lui. Il est dans un trou, de confiance au tir, mais quand je regarde les chiffres par rapport au mois d'octobre, c'est un garçon qui a 12 points à 40% à 3 points sur les 6 matchs joués en octobre. Là, il est descendu à 15 minutes, il ne met plus un tir.
Sur ces derniers, il a moins 3 points de moyenne.
Mais le problème, c'est que Evan n'est plus le même joueur qu'à Orlando. À Orlando, c'est un mec qui percutait, qui jouait des pick and roll, qui allait finir sur les grands, qui provoquait les fautes, qui avait le ballon en main pour créer. À New York, ils en ont fait un JJ Redick l'année dernière. C'est-à-dire
Thibodeau qui l'a détruit.
C'est ce que j'allais dire. C'est un peu dégueulasse parce que Thibodeau,
oui, le même. Là, je tombe pas sur Evan.
Ce que je veux dire, c'est que oui, non, mais
vous le prenez pas pour ça, en fait. Ne le prenez pas pour ça.
Mais Thibodeau. Il lui dit, ok, tu restes dans le corner, tu attends les shoots, tu fais des catch and shoot, c'est tout ce que tu fais. Et maintenant, il lui reproche de faire que ça.
Ils ont voulu en faire un spécialiste du tir, mettre des tirs en sortie d'écran, mettre des tirs en bout de chaîne. C'est pas ça, Evan Fournier.
Bah
et quand t'es dans un creux d'adresse, si ton rôle c'est de faire que ça, et bah tu sers plus à rien sur le terrain.
Bah c'est surtout que défensivement, ça n'a jamais été le meilleur défenseur de la terre, c'est qu'il peut rien apporter en fait, sur le terrain.
Et c'est le cas d'Evan en fait. Mais aujourd'hui, est-ce que l'avenir des Knicks sportivement, depuis qu'Evan est passé sur le banc, il est mieux? Je crois pas. Moi je les ai vu jouer dimanche à 18h en prime time en française. Ils sont honteux les Knicks. Ils ont pris 145 points contre OKC. Evan ou pas Evan, ils sont honteux. Donc me dites pas que le problème des Knicks actuellement, c'est Evan Fournier. Non. Le problème, c'est son utilisation.
Ouais, mais c'est beaucoup plus simple de trouver une tête de turc quand
oui, mais moi ça me dérange pas que Cam Reddish, Grimes et Quickley soit peut-être plus l'avenir d'Enix que Evan Fournier, mais trouve une solution de sortie à Evan Fournier, parce que là pour moi son avenir au Knicks il est définitivement terminé. Je vois pas Thibodeau revenir en arrière.
Après il peut être viré hein.
Qui Thibodeau? Oui.
Bah, il joue, même toi, t'as demandé qu'il soit
viré. Moi, j'ai demandé qu'il prenne son solde de tout compte. Mais moi, je suis désolé. Evan, actuellement, à New York, pour moi, c'est horizon bouché. Il va falloir trouver une solution. Soit le coach dégage, ou soit trouver une porte de sortie à Evan. Les Lakers cherchent des shooters. Bah, et, bah, Evan, apparemment, c'est un shooter.
Donc, mais en plus, ils en ont parlé souvent hein, dans les trades d'Evan Fournier. Effectivement, ça pourrait leur faire beaucoup de bien.
Je suis inquiet pour Evan dans cette franchise-là. En plus, je vois la déclat d'Evan qui dit que. Bah, c'est la première fois de sa vie, quasiment depuis sa saison rookie, qu'il sort du banc. C'est pas du tout le même rituel. Il dit mes genoux sont, à force d'être assis sur le banc, on me demande de rentrer en jeu. Mes genoux, ils ont du mal à être. Mes genoux ont du mal à être opérationnels, donc je galère un petit peu. Moi, j'ai beaucoup d'inquiétude sur Evan à New York. En plus, il est dans un trou complet. Alors, Evan te dira moi, je suis là pour aider l'équipe, Mais au bout d'un moment, ça va lui peser.
C'est folle, hein. Les Knicks,
c'est cata, Pierrot.
Bah, les Knicks, j'ai l'impression que c'est plus
que cata. Et puis les Français réussissent bien en général à New York. Vraiment, c'est une franchise qui nous réussit bien.
C'était moi, un Français qui a réussi aux Knicks. Franck Nicolas.
Moi, j'ai évité d'y aller. Donc ça
Fred,
va.
Il n'a pas réussi, il n'est pas allé, heureusement. Et Evan, pour l'instant.
Qui réussit aux Knicks, c'est la question.
Ouais, parce c'est difficile.
Carmelo, Amar'e Stoudemire, un petit peu. Les Français, dans les joueurs.
Non, n'importe qui.
Patrick Ewing, Jérémy Lin.
Oui, voilà, mais depuis cette époque, c'est échec sur échec.
C'était en 99. C'était pas hier quand même.
Là, c'est que c'est cata.
Après, est-ce qu'on peut pas reprocher quand même à Evan Fournier de ne pas imposer autre chose quand ça ne marche plus, de pas faire autre chose que exactement ce qu'on lui demande. Non, sur le terrain.
Pierrot, il puisse pouvoir.
Pierrot, cette équipe, il y a les plus grosses croquettes de la ligue. RJ Barrett et Julius Randle. Tu vas me dire qu'Evan, il va arriver sur le terrain, il va prendre les ballons. Déjà, il est pas meilleur de jeu. Et déjà, ils ont rajouté Jalen Brunson, qui, bon, lui aime bien mettre le ballon dans le panier. Evan, il a beau être un rebelle et dire moi je veux shooter tous les ballons, il peut pas. Non. Il y a trop de mecs devant lui.
Non, tu peux, non, tu peux taper sur Evan Fournier en général.
De faire autre chose que du shoot, puisque
non,
disais...
c'est, en fait c'est les seules options qu'on lui laisse offensivement.
Et
mais
tu peux pas toi sur le terrain décider autre chose, c'est impossible.
Bah, non, tu peux pas.
Quand t'as Brunson, Barrett et Randle, tu peux pas décider ce que tu veux faire.
Mais d'ailleurs ça s'est vu en équipe de France. Ça s'est vu qu'il était vraiment, il avait plus cette habitude de percuter, cette habitude de créer du jeu.
Aller voir Evan Fournier à Orlando ou Evan Fournier à Denver et regarder ce qu'il fait à New York depuis un an et demi maintenant, vous n'allez pas reconnaître le joueur. Il n'a plus le ballon en main, il n'a plus de percussion, il joue plus un pick and roll.
Mais c'est ça que j'ai toujours respecté dans la NBA d'habitude, c'est que tu transformes un mec, tu en fais un role player et tu le fais jouer parce que justement c'est un role player et que c'est très bien. Sauf que là, tu transformes le mec, tu le fais jouer en role player et finalement tu t'en sers pas.
Il y a sûrement un contre-coup de l'euro parce que c'était aussi une grosse claque pour lui. Il y a de l'influx nerveux, physique parce que c'était très dur, très dense cet euro et ouais, de ne pas avoir eu la médaille d'or.
C'est pas son jeu, Arnaud. C'est juste, c'est pas son jeu.
Oui, mais ça peut jouer aussi. Tu sors une campagne d'euro, t'arrives
et d'un reste complet.
Ouais, c'est ça.
Si tu mets pas un tir avec ton rôle, c'est mettre des tirs. Et tu mets pas un panier.
Après, ça c'est quand même sa responsabilité. Le trou d'adresse, tu peux.
Ouais, mais
ça,
oui, mais c'est lié aussi à la confiance. C'est lié aussi à la confiance qu'on t'accorde.
Non, mais n'importe quel shooter a des trous d'adresse.
En octobre, il a 40% à 3 points. En octobre, il a 40% à 3 points. 40% à 3 points NBA. C'est très bien.
Tout à fait.
C'est très bien.
Donc, seule solution, un trade. Vite.
Si Thibodeau reste sur en place, il faut trouver quelque chose.
Parce que moi, je vois pas. 18 millions la saison.
Je vois pas comment il va s'en sortir, Evan, à New York. Mais pas comment il va s'en sortir.
Mais pas pour être un simple shooter, puisque manifestement, c'est aussi ça qu'il a précipité dans le trou.
Alors après, Pierrot, Evan va peut-être aussi devoir comprendre que si jamais il est transféré ou se muer dans un autre rôle, qui sera peut-être pas starter, parce que je sais qu'Evan aime jouer dans des équipes compétitives et gagner des matchs. Si jamais il veut retrouver une équipe compétitive, il faut
aux Lakers, l'avantage.
Comme Batum, quoi. Comme ce qu'a fait Batum.
Oui, se muer en garçon, en sortie de banc, est capable d'être le scoreur de la seconde unité et faire une croix sur ses espoirs d'être starter. Mais est-ce que c'est problématique pour Evan, s'il joue dans une équipe qui gagne des matchs, de sortir du banc? Je crois pas. Sauf que là, tu sors du banc et t'es même pas sixième homme dans une équipe qui est calamiteuse. Donc, il n'y a rien qui va.
Alors, l'autre cas, c'est celui de Rudy Gobert. Alors, évidemment, il n'est pas du tout dans la même situation personnelle. En revanche, c'est au niveau collectif que c'est décevant, puisque Minnesota, ça ne tourne pas rond. Alors que, a priori, Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert étaient plutôt excités de jouer ensemble. Donc, on ne s'inquiète pas trop pour lui à titre personnel. En revanche, il n'a plus trop le temps. Maintenant, il faut que ça marche. C'est-à-dire qu'il a 30 ans maintenant, Rudy Gobert. Si ça ne marche pas à Minnesota, ça va être compliqué, non ?
Le trade il est déjà considéré comme un des pires de l'histoire, donc pour l'instant ça se passe pas très bien. Après, il y a beaucoup de gens qui disent
ça il faut attendre un petit peu.
Évidemment, mais je veux dire, il y a des analystes qui commencent déjà à le dire, et en plus Kat, on est en train de dire que c'est un des joueurs majeurs de la NBA avec le QI basket le plus faible.
Donc, c'est embêtant.
Donc c'est un peu embêtant quand tu joues avec un mec qui est quasiment à ton poste, qui, enfin honnêtement, quand tu y réfléchis vraiment,
mais pas du tout avec les mêmes caractéristiques.
Non, mais je suis d'accord, mais il joue au même poste ou quasiment. Donc c'est déjà le trade, il paraissait bizarre d'entrée. Après, il fallait qu'il s'intègre à une nouvelle équipe alors qu'il n'avait pas l'habitude. Il était resté quand même longtemps à Utah. Honnêtement, c'est pas facile que ça matche. En plus, il y a des mecs en interne qui le critiquent. Enfin, c'est
alors, la situation est compliquée aussi. En fait, Rudy Gobert, statistiquement, il est plus ou moins dans ses standards. Le problème, c'est que son arrivée à Minnesota a réduit l'impact des mecs qui brillaient l'année dernière. Karl-Anthony Towns est à 21.3, c'est sa plus petite moyenne au scoring sur ces 5 dernières années, mais il fait plus de passes décisives parce qu'il sert aussi un petit peu Rudy Gobert.
Edwards.
La problématique, moi je pense qu'elle va venir d'Anthony Edwards. Qui est l'avenir de la franchise des Wolves, qui va être le franchise player des Minnesota Timberwolves, et qui lui commence à se plaindre un petit peu d'avoir toujours un mec dans la raquette. Il dit, moi, j'ai pas mis un dunk depuis le début de saison. La seule fois, son premier dunk, c'est quand Rudy Gobert était absent. Il se plaint que Rudy ne sort pas de la raquette et que ça l'empêche de driver, ça l'empêche de percuter, et que quand il drive, il y a toujours Rudy qui est là.
Il s'en plaignit en disant
non, mais
quand il arrive,
il l'avait critiqué avant qu'il soit au Timberwolves, et il a été un peu plus
peur dans la raquette.
Voilà, exactement. Il a dit, je comprends pas que ce mec-là me fasse pas plus peur, un truc comme ça. Mais il a un peu édulcoré ses propos depuis que Rudy est là, quand même. C'est pas non plus un clash fantastique.
Non, mais il a éduqué à ses propos. Mais à partir du moment où tu dis j'ai plus d'espace pour jouer mes 1 contre 1, faut pas être sorti de Sciences Po pour comprendre que Rudy Gobert, il
n'y en a pas beaucoup qui ont fait Sciences Po et qui ont été draftés. Hein.
Oui, c'est vrai.
Tu remarqueras que c'est vrai. Pas nécessaire.
La cohabitation paraît problématique. Et surtout, les Wolves ont fait ce pari Rudy Gobert sur du très court terme. pour gagner sur un ou deux ans. Et là, tu t'aperçois que le début de saison, les résultats ne sont pas bons. Et là, la problématique, ce n'est pas un pari sur le long terme, Rudy Gobert, Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns, ce trio-là.
C'est sûr qu'un joueur de 30 ans qui a un salaire comme ça,
il faut gagner rapidement et prétendant.
Ta raquette, combien te coûte ? Ta raquette, elle coûte un pognon monstrueux pour finalement être rendue catastrophique.
C'est la roqueuse de diamants, c'est pas la raquette de diamants. Donc, en termes d'alchimie, on n'a rien à voir avec la prestation d'Evan Fournier, les prestations.
Mais non, encore une fois.
Là, c'est un problème d'alchimie.
Exactement. Rudy Gobert, il fait du Rudy Gobert. Hein. Tu peux pas lui reprocher.
Exactement. D'Angelo Russell aussi est un peu moins bon que l'année dernière. Donc, quand vous êtes moins bon et que vous avez censé rajouter un joueur qui doit vous faire passer un cap supérieur, qui est meilleur défenseur de NBA, elle est là la problématique.
Est-ce qu'il y a un espoir que ça marche, que ça s'arrange, que sportivement chacun trouve sa place?
Après, classification, coach GM, calme un peu tout le monde. Anthony Edwards, c'est bien gentil mon coco, mais c'est que ta troisième saison NBA, t'es pas entre guillemets grand chose dans cette ligue,
c'est
on t'aime bien. Oui, c'est le futur.
Anthony Edwards. Ligue de joueurs, encore une fois, attention, c'est une ligue de joueurs avec le futur de la franchise, tu t'embrouilles pas avec lui. Hein.
Est-ce que Rudy Gobert est en danger, puisqu'on pose la question comme ça?
En danger? Oh.
Mais les principales rumeurs de trade, c'est plutôt Karl-Anthony Towns.
C'est plus sur Karl-Anthony Towns que sur Rudy Gobert.
Oui. Et pourquoi?
Pourquoi?
Ça permettrait de récupérer un joueur intéressant à un autre poste.
Il y a parfois des images catastrophiques avec Karl-Anthony Towns sur une action où il court, il sort, on lui donne le ballon alors qu'il est dehors. Il y a des images assez catastrophiques.
Est-ce que tu peux construire sur Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards?
On l'a vu, il défend pas un cachou.
On l'a vu que Minnesota, même si l'année dernière la saison a été plus qu'correcte, finalement ils sont pas allés au bout. Est-ce que c'est pas plus intéressant d'avoir Anthony Edwards?
Je vous pose une question sans aucune arrière-pensée, donc vous jetez pas sur moi. Karl-Anthony Towns est-il un si fort joueur que ça?
Offensivement, c'est fort.
Offensivement, c'est très fort.
C'est peut-être mais défensivement. Mais encore une fois.
Aujourd'hui, t'en as plein des joueurs forts offensivement des intérieurs.
Aussi fort que lui? Je sais pas.
C'est le meilleur big man shooter déjà de Karl-Anthony Towns de la ligue sur le tir à 3 points.
Il est quand même... C'est pour ça qu'ils ont misé sur Rudy Gobert parce qu'ils se sont dit justement, comme il est capable de shooter, il va écarter le jeu et laisser de la place à Rudy Gobert.
Il a 5 passes de moyenne, donc ça veut dire qu'il n'est pas aussi idiot qu'il en a l'air dans le jeu. Le problème, c'est
qu'il a vraiment l'air idiot. Il a vraiment les.
Non, parfois il fait des choses un peu défensivement, un peu bizarre.
Le terrain, il est en contact. Il est sacrément en
contact. C'est color catégorie pour défendre.
Et ça, ça changera jamais.
On est à l'Alpe d'Huez. Je le prends pas, je le prends en dernier.
On est à l'Alpe d'Huez quand il faut défendre.
Il fait pas partie de cette catégorie. Évidemment que non, il fait pas partie de cette catégorie. Mais ça, c'est quand même un.
Donc un trade est possible de Karl-Anthony Towns.
C'est les rumeurs en tout cas.
Avec un énorme contrat, puisqu'il est dans son début de contrat. Il a 2024-2025, c'est 50 millions la saison. Et ça va aller crescendo avec une player option 2027-2028 à 62 millions. Alors je sais bien qu'aujourd'hui les salaires
un échange avec une autre franchise Kata quoi qu'il aille à New York.
Après il a 27 ans hein, Karl-Anthony Towns, il est pas si vieux que ça. Moi je pense qu'ils vont, il y a 14 matchs de jouer, on va pas non plus tirer la sonnette d'alarme et vouloir tout chambouler, il faut être un petit peu patient.
Pire, ils couperont le coach.
Mais le trade était très risqué, il y a beaucoup d'enjeux finalement comme tu disais, c'est sur du court terme, donc ça peut aller très vite quand même.
Et alors dernier mot quand même, c'est Nick Batum, puisque j'ai entendu que les Américains l'appellent Nick Batum.
Nick Batum.
On se fait pas de soucis pour Batum. C'est la franchise qui est un peu en difficulté parce que Kawhi revient pas finalement tout de suite.
Ils font un petit peu le dos rond, ils prennent des matchs. C'est Paul George qui tient l'équipe. Kawhi est toujours parvenu. John Wall joue un match sur deux. Après, Nico, il me disait qu'il était dans un trou aussi en termes de confiance et d'adresse. Ouais. Donc
il a marqué un seul panier sur les huit derniers matchs.
Il a mis 10 points dans la nuit de lundi à mardi. Donc je crois que c'est son meilleur match de la saison. Mais il est dans un trou en termes d'adresse à 3 points après. Bon, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Nicolas Batum quand Kawhi
non, mais lui, il trouvera toujours le taf à faire.
Le vrai intérêt pour Nicolas Batum, c'est est-ce que les Clippers sont bons? Voilà.
Pour l'instant, c'est moyen, c'est normal.
C'est 8 victoires, 6 défaites. Il faut attendre le retour plein pot de Kawhi Leonard et John Wall pour pouvoir juger.
Je vais être cocardier. Au pire, les Clippers, Nick Batum joue pas trop. Les Clippers vont pas loin. Ça nous fera un Nicolas Batum en forme pour septembre 2023.
On veut qu'il finisse sur une bague, Nico, quand même.
Il lui reste 2 ans, Nico, NBA. Il a signé 2 ans.
C'est peut-être cette année, hein? Crac avec le retour de Kawhi.
Moi j'y crois. La saison est longue à NBA. La saison est trop longue à NBA. Tu peux avoir.
Kawhi, on ne sait pas vraiment ce que ça peut donner quand même. S'il revient à bloc, oui.
Moi je comprends pas Kawhi. Il a rejoué, finalement il rejoue pas.
Ouais, c'est pour ça que ça paraît plus compliqué que ça.
Il est frustré.
Il est frustré parce qu'il veut jouer.
Problème physique, est-ce qu'il va pouvoir revenir complètement?
Ils font bah, très longtemps quand même. Il a raison, Steve, si vous jouez. Saison est longue. Hein.
Oui, d'accord, mais ça fait longtemps qu'il est arrêté.
Justement.
Et que c'est un peu compliqué.
Peut-être
quand même.
Qu'ils ont vu qu'il y a un petit risque de rechute.
Est-ce qu'ils font comme Karim Benzema au Real Madrid.
Voilà, c'est ça, exactement. Non, mais franchement, ça.
Ne pas avoir trop de retard pour les Clippers avant le All-Star break.
Karim Benzema ou Kawhi Leonard.
En 1 contre 1, Kawhi Leonard.
Non, non, mais dans son sport.
Dans son sport. Dans son sport.
Ouais.
Dans son sport.
Ouais.
Dans son sport.
Kawhi.
Le problème de Kawhi, c'est qu'il a gagné avec plusieurs équipes. Parce qu'elle n'a pas fait Karim Benzema.
Karim, il a Ballon d'Or.
Karim Benzema, il a gagné qu'avec le Real. Est-ce qu'il est capable de gagner ailleurs, Karim? Kawhi est parti des Spurs, il a
gagné.
Pour
moi, ces questions-là ne se posent pas avec des mecs qui ont tout gagné dans un des plus grands clubs du monde. Tu vois, c'est pas la peine d'aller voir ailleurs, c'est bon, on sait. Hein.
Oui, mais pour voir si ton impact dans le jeu peut se transposer dans un autre système. Tu vois ce que je veux dire, Pierrot? Est-ce que Lionel Messi est capable de gagner ailleurs qu'à Barcelone?
Ah, j'espère. Je le souhaite de tout mon cœur. Basket Time spécial français de la NBA. Donc, c'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr. On va regarder maintenant la génération suivante.
With the 7th pick in the 2020 NBA Draft, the Detroit Pistons select Killian Hayes from Lakeland, Florida.
Aldon goes right at
Aldon had been reluctant to shoot the ball.
Aldon spots up for three. Three-pointer keeping Charlotte.
With the 11th pick in the 2022 NBA Draft, the New York Knicks select Ousmane Dieng from Bordeaux, France.
J'ai cru à un moment qu'il disait Paladon.
Oui, moi aussi. Je serais que là sur NBA 2K, tu sais, avec mon perso que j'ai
créé. The Boston Celtics select Arnaud, the truth, Valadun.
Avec son bandeau.
Alors, les jeunes partent-ils trop tôt en NBA? Déclaration de Nicolas Batum dans l'équipe il y a quelques semaines. Quand nous, on arrivait aux États-Unis, on n'avait plus rien à prouver. En France, on avait galéré pour s'imposer, gagner crédibilité, respect. On était prêts à ce qui nous attendait. Ils ne sont pas mis dans les meilleures conditions. Ça n'est pas seulement de leur faute. Le système est comme ça. On les met très haut, trop tôt. C'est un constat implacable qui n'a pas surpris grand monde, Arnaud.
Les rêves de NBA. Alors, Kylian Harris, que vous avez entendu, il a connu un début de saison très difficile. Pire pourcentage d'adresse de la Ligue au début, avec 17% seulement des shoots inscrits. Mais ça va mieux, notamment les dernières sorties. Il y a eu quelques blessures dans l'équipe des Pistons, notamment Kate Cunningham à l'arrière. Il a pu jouer 35 minutes lors de ses dernières sorties. 16 points contre Boston au Garden. Une franchise qu'il aime bien, décidément, puisque trois jours plus tard, il a signé 15 points, 7 passes, 6 rebonds, de quoi rassurer sur le niveau du fils de Deron Hayes, ancien ailier shooter du championnat de France, mais il est là dans une franchise qui ne gagne pas. Tout comme Théo Malédon à Charlotte, une dizaine de minutes en moyenne et des performances qui soufflent le chaud et le froid, avec une pointe à 15 points en début de saison contre les Knicks au Madison Square Garden. On parle également d'Ousmane Dieng, le rookie du Thunder. Il avait eu du temps de jeu en début de saison, 20 minutes régulièrement, mais depuis une semaine, il a été renvoyé en J-League où il a planté 20 points récemment, un joueur qui est en développement. Enfin, je l'ai inclus aussi dans les jeunes, Frank Ntilikina, qui n'a toujours pas joué de la saison, toujours touché à une cheville. Enfin, Moussa Diabaté aux Clippers n'a joué que deux matchs dans le cadre de son two-way contract. Et puis un petit mot pour Olivier Sarr qui est blessé, le joueur de Portland également two-way contract et sur la touche depuis début octobre.
Alors, est-ce qu'ils partent trop tôt en NBA, Fred?
C'est une très bonne question, très vaste question, mais concrètement...
Jusqu'ici, en fait, quand on posait la question, je t'interromps deux secondes, dans ce podcast, la réponse était oui, mais de toute façon, avec les contrats qu'on leur propose, c'est comme ça. Bon, soit. Mais maintenant qu'ils ont du mal à s'imposer, qu'est-ce qu'on dit, Fred?
Mais encore une fois, quand le train de la NBA passe devant toi, est-ce que tu peux refuser? Non. Alors après, est-ce qu'ils ne pourraient pas s'arranger avec leur club ou trouver une solution justement en se rendant compte que ceux qui partent trop tôt, les Européens et les Français en particulier, qui partent trop tôt, ils ne réussissent pas forcément. Donc peut-être s'arranger avec leur club pour qu'ils soient prêtés et qu'ils fassent encore un peu plus leur gamme en Europe. Ok, peut-être. Peut-être que là, il y a une solution. Peut-être que les agents doivent négocier dans ce sens-là. Mais sinon, encore une fois, le train de la NBA passe, tu prends parce que c'est la meilleure ligue du monde et que si tu peux avoir ta chance, pourquoi pas? Tu me parlais de Tony Parker. Tony Parker, quand il va là-bas, il va pas comme une star, hein. Il va pas du tout comme une star et il va quand même. Donc pourquoi lui ça peut fonctionner et d'autres pas? Ça se tente, encore une fois, ça se tente. Après, peut-être qu'il reste trop longtemps. Moi je pense à des Kevin Serafin, des Petro qui sont restés peut-être un peu trop longtemps parce que leur chance était passée, peut-être qu'ils auraient dû revenir en Europe avant, mais qui tentent le coup
comme
NBA.
Fernando, voilà, comme après Miguel Jalabal ou...
hein, tu sais,
mais est-ce que refuser la NBA c'est quelque chose de concevable? Je suis pas sûr.
Non mais après moi ce qui me gêne aujourd'hui et ce qui me gêne du côté de la NBA, c'est que avant la NBA draftait, certes, sur un potentiel qui pouvait être développé, mais aussi draftait des garçons qui avaient fait des choses concrètes au niveau professionnel. C'est-à-dire qu'ils avaient fait des saisons complètes en étant
très bons et en dominant parfois le championnat domestique. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les franchises NBA draftent
c'est la boucherie charcuterie,
uniquement
quoi.
Sur du potentiel, sur une petite hype qu'il y a.
T'as vu cette interview de Michael Jordan, une ancienne interview qui est ressortie, il est à côté de Charles Barkley, il dit « Nous, à notre époque, avec Charles Barkley, nous, on l'a mérité, notre position. »
Mais exactement.
On misait sur des joueurs qui avaient fait des choses, qui avaient prouvé des choses.
Mais c'est la vérité.
Et maintenant, c'est que des
parce
potentiels.
Que Boris Dio, il est drafté, il est MVP français Pro A. Tony Parker, il part en NBA, il fait une saison, il a 14 points et demi avec le Paris Basket. Mike Petrus, il part en NBA, il domine le championnat de France. Nicolas Batum, idem, il a 16 d'évaluation avec le MSB.
Franck Nilikina, quand il part, il a 5 points.
Franck Nilikina, il a 5 points à Strasbourg. Est-ce que c'est dominer le championnat de France? Non. Sekou Doumbouya, une saison dans l'élite du basket français à Limoges, 7,3 rebonds. Certes, il y a des coups d'éclat de quelques gros matchs, mais sur une saison entière.
Encore une fois, sur un potentiel.
Théo Malédon, il a fait quoi avec l'ASVEL, Théo Malédon? 7 points de moyenne sur 2 saisons.
Alors, il y a des circonstances un peu.
Est-ce qu'on appelle ça dominer le championnat de France? C'est quoi les circonstances?
Bah, le coach.
Pourquoi le coach?
Zvezdan Mitrovic qui ne le faisait plus jouer à la fin.
Bah, t'es sérieux, Théo?
À la fin.
Zvezdan Mitrovic, il l'a lancé, il jouait 20 minutes de moyenne, ou 18 minutes de moyenne,
Théo
Malédon.
Mais il a joué l'Euroleague.
Au moment des derniers mois.
Théo Malédon, je suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple par contre.
Il a dominé. Est-ce qu'il a dominé, Théo?
Il a pas dominé. Mais il a joué l'Euroleague au moins. Au moins, il a joué la deuxième meilleure compétition entre guillemets du monde.
Luka Doncic, il a joué l'Euroleague.
Ah, il l'a défoncé.
Il a marché dessus. Alors, Wembanyama, lui, c'est un cas à part, il va être numéro 1 de la draft. Mais Wembanyama, quand il va être en NBA l'année prochaine, il aura passé 3 saisons au niveau professionnel entre Nanterre et des matchs de Coupe d'Europe, entre l'ASVEL et des matchs d'Euroleague, et là, à Boulogne-le-Valois, où il marche sur le championnat de France. Ça, t'as des vraies certitudes. Mais quand tu draftes des mecs sur des bribes de perf où t'as mis 13 points un soir en Euroleague, où t'as mis 18 points un soir dans le championnat de France, ça marche pas. Mais le système, Pierrot, il est pourri aussi parce que nous, on en fait partie de ce système, les médias. À monter au nu un gamin qui, un soir, a mis 14 points parce qu'il
moi,
avait 18 ans.
Ça me gonfle, de toute façon.
Non, mais c'est pas ça. Les médias font partie de ce mauvais système. Les entourages des gamins qui, après deux bons matchs, leur font miroiter une draft NBA et lui parlent que du perspective NBA et du perspective draft que du projet personnel. Sauf qu'en NBA, Pierrot, quand t'arrives en NBA et que t'es pas prêt, ta chance, tu vas l'avoir. Sauf que l'année d'après, il y a 60 gamins qui arrivent de fac ou d'Europe avec la draft. T'es pas prêt, t'as pas été bon, tu dégages. Il y en a 60 qui arrivent sur le même poste de jeu que toi, qui sont peut-être meilleurs que toi, qui sont plus prêts que toi à prouver.
Regarde Théo Malédon, hein, sa première saison qui fait un peu rêver tous les Français parce qu'il a 10 points de moyenne.
Il draft qui derrière et Josh Giddey, voilà, qui est meilleur de jeu et qui est aujourd'hui titulaire au KC.
Et ça dégage.
Si t'es pas prêt dans tes jeux NBA, tu sautes.
Tu penses quoi de Killian Hayes? Qui est parti quand même jouer l'Eurocoupe, qui a fait des pertes plutôt correctes en Eurocoupe, qui est censé être la deuxième compétition européenne, est-ce que lui, finalement, il n'était pas un tant soit peu plus prêt que les autres?
Peut-être, mais Théo Malédon, il s'est perdu. Il s'est perdu à Détroit.
Il a eu une blessure très compliquée.
Oui, après, ils ont signé que des meneurs de jeu, Kate Cunningham, Jaden Ivey, que des mecs sur les postes extérieurs sur les mêmes postes que lui.
Si, le problème, en plus, c'est qu'ils sont bons.
Si tu estimes que Killian Hayes, qui est drafté très haut, est très bon,
mais alors est-ce que la solution.
Tu ne draftes pas des meneurs la draft d'après, Fred. Ça veut dire qu'ils ont peut-être vu.
Ça dépend aussi ta façon de drafter. Tu draftes peut-être le meilleur, pas au poste, le meilleur disponible au moment où
tu draftes. Tu cumules pas les meneurs de jeu.
Sachant que Hayes, il est plutôt bon depuis que Cunningham est blessé.
Il a vu son début de saison, là, Cunningham n'est pas là.
Il a fait 3 matchs plutôt corrects.
Tu mets 15 points avec les Pistons, là aussi c'est en trompe-l'œil.
Évidemment.
Il y a deux points. D'abord, je trouve qu'il y a un côté de plus en plus Kleenex dans la NBA avec les joueurs, notamment. Voilà, on arrive 10e, 11e, 12e rotation. C'est comme on le disait, on te remplace très facilement, on t'éjecte très facilement et on te remplace.
Il y a 60 joueurs qui arrivent tous les ans, sans compter les prospects.
Le vrai débat qui rejoint, c'est comment tu y arrives en NBA. On voit aujourd'hui tous ces projets, que ce soit Australie-Nouvelle-Zélande. Alors, il y a la Melo Ball qui a été un peu en porte-étendard. Là, il y a Ousmane Dieng, notre Français, qui est arrivé à OKC après avoir passé. Une saison à Auckland.
À l'Overtime Elite.
Overtime Elite, il y a Ignite. Voilà. Et ça remplace tout un système où avant, c'était quand même il faut que tu fasses ta fac aux États-Unis.
Ouais, mais justement,
tu vas à Kentucky avec John Calipari, il va t'amener en numéro 1 de la draft ou numéro 2. Et aujourd'hui, effectivement, c'est des joueurs qui ne sont pas prêts parce que le système les a avalés, que personne ne s'est dit on va peut-être attendre un petit peu. Donc, c'est des joueurs, ils ne sont pas prêts.
Mais
et ils n'ont rien prouvé.
Quitte à partir tôt, est-ce que les mecs n'auraient pas intérêt, plutôt que de partir à 20 ans en NBA, de partir à 17 ou à 16 partir au collège, puis à la fac?
Ouais, mais aujourd'hui je ne sais plus quel coach disait que, je crois que c'est Jason Kidd, je crois, le coach des Mavs, il disait aujourd'hui, les mecs qu'on récupère de fac, on est obligé de leur faire un travail de formation qui, il y a 10 ans en arrière, était fait à la fac. Ah aujourd'hui, bon aujourd'hui les mecs à la fac...
Il y a des bons qui sortent de la fac encore. Là.
Oui, mais ils sont plus formés
mais parce que t'as pas
sur les fondamentaux. Il reste un an parce que c'est uniquement un projet individuel.
Et surtout, tu peux pas être drafté avant 18-19.
C'était le débat au début des années 2000 où t'étais obligé de passer par la case collège. Souviens-toi de LeBron James, on disait il va toujours lui manquer peut-être quelque chose, il a pas fait de collège et tout. C'était imposé avant d'avoir au minimum un an. Et après, il y a des...
Peut-être enlever ça.
Et le one and done.
Tu pourras
voilà
jouer en NBA à 17 ans.
Et dernière question.
Ces gamins, ils arrivent dans la ligue, ils ont trop de carences.
Alors, est-ce que c'est pas aussi une question de talent ? C'est-à-dire, est-ce que finalement, c'est pas également un problème individuel ? Tu citais tout à l'heure Tony Parker qui est arrivé sans avoir du tout un statut de star, mais est-ce que finalement, intrinsèquement, la génération actuelle ne manque pas un petit peu de talent quand un Borisio s'est imposé?
C'est juste que t'as moins le temps.
Quand un Mike Pietrus s'est imposé.
Pierre, t'as moins le temps dans la NBA.
Personne veut attendre en fait.
Mais est-ce que les mecs là dont on parle ont autant de talent que la génération précédente?
Mais bien sûr qu'ils en ont autant. Au moins certains, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as plus le temps quand t'es une franchise NBA, t'as plus le temps de les former. On parlait de Kleenex, c'est exactement ça. L'année suivante,
les Spurs, ils n'ont pas eu à prendre du temps avec Tipeee. Hein.
Oui, mais tout le monde n'est pas géré comme
trois mois,
les Spurs.
C'était réglé. Hein.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tout le monde n'est pas géré comme les Spurs.
Aujourd'hui, t'es pas bon, tu dégages. Il y en a un autre.
Mais oui, mais parce que c'est l'effet Kleenex. Il y a tellement de joueurs qui arrivent, il y a tellement de potentiel, il y a tellement de facilité à arriver en NBA maintenant.
Et il y a un paquet. L'avenir pour les Français en NBA,
il est noir.
Il est noir.
Il est gris, allez, on va dire.
Parce que Victor Wembanyama va être l'arbre qui cache la forêt. Alors, c'est un énorme arbre parce qu'il risque, risque de dominer. Mais il y a un paquet de gamins qui, aujourd'hui, alternent entre les two-way contract et les bouts de banc.
Après, c'est de rentrer en Europe.
Ils vont disparaître
aussi,
de la Ligue. Il y a un paquet de mecs qui vont sortir de la Ligue.
Il y a beaucoup de Français qui font des très belles carrières dans les clubs d'Euroleague. Hein,
Mais c'est pas une honte aussi, à 18 ans, de pouvoir signer un contrat à 2 millions de dollars et de l'accepter. Mais il faut aussi accepter qu'à un moment donné, quand tu es en échec,
c'est les choix de aussi, hein.
Pierrot, toi, t'as pas démarré direct RMC.
Oui, et puis un petit contrat à 2 millions de dollars la saison, bah, ça me dérangerait pas. Curieusement. Basket Time, spécial français de la NBA, tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Nous passons à la partie historique. Watch this. Gordon threads the needle through transition and Joakim Noah on a double-double powers it home. Sekou triples. And the Pistons are up 16-11. Brown way up for Sekou. And a soft stuff. Tyrus. Noah. Another turnover by Dallas. Oh, and a chase down block. Kennard caught by Ntilikina. Across the way, Ntilikina will try it. And hit it with a foul. And a chance at a four-point play as Danny Green hit him on the arm. Alors, à vous de me dire quelle est, selon vous, la saison la plus ratée pour un Français en NBA. Évidemment, je le disais tout à l'heure, on prend aussi en considération les attentes qui étaient au début de saison, puisque sinon, bah, on peut parler de tous les Français qui ont raté une saison, qui ont fait des allers-retours avec la D-League ou la J-League, et c'est pas le but, évidemment. Alors, qui va commencer ? Arnaud Valade, on va commencer.
Allez, levez la main comme à l'école.
Et je suis précis. Alors, je vais prendre Nicolas Batum, saison 2019-2020. Mais je vais l'expliquer. Il y a plein de choses à expliquer.
2019-2020.
Sous le maillot des Hornets. Alors, 22 matchs entre les absences et puis évidemment le Covid qui avait arrêté la NBA. 23 minutes, 35% au tir, 28% à 3 points pour 3,6 points de moyenne, 4 rebonds, 3 passes, 25 millions la saison. Alors, beaucoup
c'est
de choses expliquent cette
c'est
saison.
C'est vrai que la ligne de stats ne fait pas rêver, Nico.
Mais je vais plutôt le défendre et expliquer. Et d'ailleurs, il y a un très bel entretien qu'on peut toujours écouter avec toi, Stephen, et la First Team. Vous êtes allé voir Nico, où il s'est confié un petit peu sur ça. D'abord, un coach qui ne compte absolument pas sur lui, qui lui fait comprendre, James Borrego, qui avait remplacé un an auparavant Steve Clifford. On sent que voilà, Nico Batum, il n'a pas la tête au basket, il n'est pas bien déjà dans son corps. Et souvenez-vous, il y a ce fameux match NBA à Paris où les Hornets jouent contre les Bucks. Alors au final, il y aura une fleur du coach puisque Nico jouera 33 minutes, 5 points à 1 sur 8. Un public de Bercy qui reste quand même très bienveillant, parce qu'on sent effectivement que Nico Batum est ailleurs. Il y a d'ailleurs cette scène, je me souviens, où il vient sur le podium en conférence de presse d'après match avec son petit Hayden, et on voit qu'il n'a pas du tout la tête à répondre aux questions basket. Il n'est pas là. Le basket semble même accessoire dans sa vie à ce moment-là. Finalement, il se fait couper en novembre 2020, où il va se relancer totalement chez les Clippers, comme le champion qu'il est, puisque quelques mois plus tard, il amène les Bleus en finale des Jeux Olympiques avec ce compte sur Clemens Prepelic.
Finalement, c'est ce qui pouvait lui arriver de mieux. Parfois, se séparer, c'est bien.
Oui. Oui, tu tombes sur un. Enfin, ça, séparer, c'est bien.
C'est marrant que ça fasse réagir Fred.
Oui, d'accord.
Plutôt que d'insister dans une relation qui s'enlise, Fred, réfléchis-y.
Parfois, hein. Parfois, oui.
Bon, bah,
tu veux l'envoyer au casse-pied.
Vas-y, bon, finis ce que tu étais en train de dire, Steve, sur Nico.
Non, il arrive à Charlotte avec, oui, c'est son énorme contrat fait que bah, la déception, les chiffres sont pas en adéquation avec son énorme contrat. Après, tu tombes sur un coach qui veut pas de toi, qui arrive. Voilà. Après, Nico, je suis pas sûr qu'il était après, ensuite dans la meilleure forme de sa vie, non plus physique, mais bon, il a su rebondir. L'histoire est belle, en fait.
Et on salue Madame Veil, c'est au passage, bien entendu. Donc, Fred, je te laisse te remettre de tes émotions, Steve.
Écoute, moi, je vais partir sur Joakim Noah, première saison à New York, saison 2016-2017 il me semble, après 9 belles saisons aux Bulls où il était All-Star, où il a été dans le meilleur 5 de la NBA, meilleur défenseur en 2014. Il signe pour 72 millions sur 4 ans à Big Apple, une équipe des Knicks plutôt prometteuse parce qu'il rejoint D-Rose avec qui il avait fait des belles campagnes de playoff à Chicago, Carmelo Anthony, Kristaps Porzingis, et on se dit que l'association...
Belle équipe.
Belle équipe, on se dit que l'association Porzingis Joakim Noah avec Carmelo Score et Diro, ça fait saliver. Sauf que le bilan comptable, eh ben, au final, il sera désastreux. 12e de la conférence Est, 31 victoires seulement. Et notre ami Joakim, dans tout ça, 46 matchs joués, 5,9 rebonds, 43% au lancer franc. Il a alterné entre le je joue mais je suis pas bon, le je joue pas car je suis blessé à l'épaule et au genou, et terminé la fin de saison par une suspension pour un contrôle positif à un complément alimentaire qui était autorisé la saison d'avant et qui est depuis été passé sur la liste des produits interdits. Le public du Garden l'a vite pris en grippe parce que le montant de son contrat a été jugé exorbitant parce qu'il avait déjà quelques pépins physiques à la fin de sa saison avec les Bulls. Voilà, au bout de 2 ans, fin du fiasco, New York
met fin. Encore l'année dernière.
Mais fin prématurément à son contrat, exact. Son contrat qui prenait fin en 2020. Ils ont décidé de rompre le contrat. Et, ben,
mal, hein.
Et les chiffres ont fait mal pour les Knicks. Je crois que c'était plus d'1 million le match, 300 000 euros le point marqué pour Jux.
La carrosserie était belle, mais le moteur était
Et puis Jux avait annoncé qu'il s'était un petit peu perdu dans la Nike. Dans la Nike
c'est sa vie, New York, en fait. c'est sa ville, vraiment. Hein. C'est un New Yorkais.
C'est un peu comme Paris. Tu mets un pied, je vais aller faire un tour dehors, tu mets un pied, puis tu rencontres un mec qui dit la semaine prochaine, tu viens là. Après, tu mets 2 pieds. Bah, finalement, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, t'es dehors.
C'est un peu comme Nancy, tu fais une soirée, tu croises des forains. Et
voilà.
Ça part en couille.
Exactement.
Fred.
Ouais, c'était difficile de répondre à cette question parce que moi, il y a plusieurs mecs qui m'ont déçu. En fait, ce qui m'a principalement déçu chez eux, c'est qu'ils restent. Qui continuent à tenter, qu'ils insistent en NBA. Je pense à Yann Maïdmi dans une moindre mesure, mais à Johan Petro, un Kevin Serafin qu'on aurait voulu voir revenir plus vite. Et j'ai choisi un, mais c'est vraiment entre guillemets l'arbre qui cache la forêt, ou en tous les cas, l'arbre qui montre ce qui s'est passé avec les big men à cette époque-là. Moi, c'est Ronny Turiaf en 2012-2013, parce que Ronny Turiaf, on connaît son énergie, sa volonté, son anticipation, sa capacité de contrer, etc. Il arrive aux Clippers, dans une équipe où il y a Lamar Odom, Chauncey Billups, Griffin, Jordan, Chris Paul. Donc plutôt une belle équipe.
Gros casting, après, dans quelle forme, c'est autre chose.
Tout le monde joue plutôt bien, ils finissent quatrième à l'Ouest, alors qu'ils auraient pu finir mieux parce que Chris Paul se blesse. Et Ronny Turiaf, c'est 65 matchs, 1,9 points, 2,3 rebonds. Quand je pense à la qualité de ce joueur, je me dis que c'est pas possible. C'est pas possible. Alors encore une fois, ce rêve absolu de NBA, ce jusqu'au boutisme de se dire que je veux réussir à tout prix, eh ben moi ça m'a dérangé plusieurs fois et j'aurais préféré le voir dans une grosse équipe d'Euroleague, faire un peu à la Vincent Poirier, faire des gros stats dans des gros clubs comme le Barça, le Real, et j'en passe et des meilleurs, plutôt que de le voir scorer 1,9 points, 2,3 rebonds. Je pense qu'il avait un potentiel supérieur à ça et je ne suis pas déçu de lui, je suis déçu que ces joueurs, ces big men principalement, ils aient tellement insisté avec la NBA pour finalement pas grand-chose.
Mais insister quand tu vis en Californie, bon,
c'est vrai.
Ouais, mais bien sûr, mais c'est un basketteur, hein, c'est pas un surfeur. Donc
Non, mais après, c'est un peu le problème du système de la NBA. C'est-à-dire qu'un mec comme Turiaf qui a des qualités, bon, si c'est la 12e roue du carrosse, on s'en fout en fait, parce qu'il y en a d'autres. Pour faire tourner la machine, c'est tout, non ?
Oui, voilà, c'est ça, mais c'est ça qui me dérange. Encore une fois, que les Américains fassent ça, parce que c'est dans leur culture, c'est leur façon d'être, que nos Européens, et principalement, encore une fois, nos Français, se disent « Ok, j'y vais parce que je suis un des rouages de la machine », bah, je pense qu'il méritait mieux, ce joueur.
C'est vrai que moi, j'aurais aimé le voir en Euroleague.
Il a fait un passage à l'Asvel,
au moment du lockout.
Plutôt sympa, hein.
Après, Ronny, il a toujours accepté les rôles qu'on lui a donnés. Il a toujours été adoré dans ses équipes parce que c'était un mec de vestiaire fantastique.
Un ami de Kobe, hein, parce que justement, il se donnait à fond.
Et quand il allait sur le terrain, et ben, tu pouvais partir à la guerre avec lui. Après, il a joué aussi souvent dans des grosses équipes avec des effectifs hors normes où et ben, il se contentait de miettes. Ça lui a permis aussi d'être champion NBA.
Il est champion NBA, mais il joue 13 matchs, je crois. Donc,
oui, bah,
non, mais ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, moi, je ne critique pas Ronny Turiaf. Je critique l'état d'esprit qu'il y avait à cette époque-là d'aller jusqu'au bout. Du bout, parce qu'ils voulaient leur chance en NBA, il y a peut-être autre chose à faire.
Basket Time spécial français de la NBA, on termine avec le quiz.
Oh, j'ai pas trop coupé les cheveux en 4. C'est parti là en premier, c'est parti chez
Sting. Ouais, comme chaque semaine, c'est parti.
C'est parti là-bas en premier.
Et là, c'est après ou pas ?
Je vais tout arracher. Ah, je l'ai ! C'est un mec qui... C'est... René Scanteur.
Non. Pour le bonnet d'Anne.
Ouais. Mon deuxième a volé l'orange.
Jean-Michel Green.
Léo Zosic, il est là, mais Steph, tout merde. Andrea Bargnani.
Daniel Ena Cornflex.
Daniel Ena Cornflex.
Mais pourquoi je vois un demi?
Vous voulez pas respecter les rouquins, les amis. C'est ça votre problème.
Attends.
Allez, on y va et on espère qu'on va passer une bonne, un bon moment, comme dans ce jingle. Donc, c'est un quiz spécial français de la NBA. Vous avez deviné un joueur, là, crack comme ça d'entrée de jeu,
avec
une partie de son CV. Je pense que ça peut aller vite.
T'as été bon, t'as pas imprimé des deux côtés, Stephen.
C'est bon.
On peut pas voir. Bravo. Parfait.
Alors, je suis professionnel depuis 2001.
Oui.
Je n'ai toujours pas terminé ma longue carrière, puisque je suis toujours licencié en Pro B. À 39 ans, c'est Mickaël Gélabal, absolument, qui joue encore au basket.
À Chalon.
C'est beau, hein, c'est l'amour du jeu.
Et quelle belle reconversion en cours.
Et qui est amoureux de la cuisine. Lui.
Cuisine. Il a fait formation, Bocuse à Lyon et tout ça. Il va ouvrir un resto, Mickaël. Et pourquoi je le savais ? Parce que 2001, j'ai débuté avec lui à Cholet.
Et ben voilà, mais ça sert d'avoir été un ancien basketteur pour faire un podcast basket, c'est normal.
Excuse-moi, j'étais en Espagne à cette époque-là. Désolé.
Pour Steve, bah, c'était pas contre toi, Fred.
Et son restaurant, c'est comment il va s'appeler ? Mickaël Gélabal.
Ben c'est bien trouvé. Il est mort, Paul Pierce. T'as fait fondre Paul Pierce. Alors.
T'as faim ? Alors on va chez Mickaël Gélabal.
Donc, deuxième question : quel joueur français, au pluriel ? Au pluriel, quels joueurs français au pluriel ont joué à la fois, ont joué dans leur carrière au Toronto Raptors et à Portes.
Mike Pietrus
et Jérôme Moïso.
Non.
Toronto Raptors. Et à Portes.
Jérôme Moïso n'a pas joué à Portes.
Oui, c'est vrai.
Français.
Ouais, donc Mike Pietrus,
c'est bon.
Et Boris Diaw.
Et ben non.
Et Joan Petro, pardon.
Et non.
Et
Alexis Aginsa.
Absolument. Qui a joué à Pau en 2007. Bravo, Stephen.
Bah, j'ai dit qu'un nom, je ne vais pas prendre le point.
Oui, il prend un point, alors que moi j'ai dit Mike, mais c'est pas grave.
Bah, parce que celui qui était dur à trouver, c'était Aginsa.
La prochaine fois, tu dis, je vous dis Mike Pietrus, et le deuxième, il compte. Sinon, ça ne sert à rien qu'on joue.
Il y a également Moïso et Nando qui ont joué à Toronto, mais pas à Pau. Donc, ça fait deux points pour Steve. Quel joueur a été drafté sans avoir joué une seule minute, ni aux États-Unis, ni en club en France? C'est très facile.
On ne sait pas, Fred.
Quel joueur a été drafté sans avoir joué une minute
une
en France?
Une seule minute en club en France.
En club en France.
Et ni aux États-Unis. C'est très facile parce qu'on en a parlé dans ce podcast.
Oui.
Ouais.
Pas une minute aux États-Unis ni en France.
Ouais. C'est toi qu'on a parlé, Arnaud.
Joachim Noah.
C'est un truc qui va peut-être...
Mais non, il n'y a pas joué en NBA.
C'est peut-être un truc qui va se renouveler de plus en plus dans l'avenir.
Ousmane Dieng ?
Ousmane Dieng.
Non,
c'est là. Ousmane Dieng, c'est pour Arnaud.
Il est même petit Maïkou.
Exactement. Ousmane Dieng, donc Australie, qui est parti... Donc, alors, dites-moi un mot de cette nouvelle filière. Quoi. C'est un truc de Dieng. Autant avant, il y avait des trucs de Diouf. Maintenant, il y a un truc de Dieng. Dites-moi un mot de cette nouvelle filière.
Il est originaire du Sud-Ouest. Il est parti très tôt, déjà en formation, je crois, au pôle à Bordeaux. Et ensuite, Centre fédéral, où il a dû faire deux saisons. Il y a d'ailleurs une interview que vous pouvez retrouver sur le site RMC Sport d'Ousmane Dieng, réalisée il y a quelques jours. Et c'est une des nouvelles filières pour accéder en NBA, c'est d'aller en Australie-Nouvelle-Zélande. En ce moment, il y a Ryan Rupert qui est là. Il était à Auckland, il a fait une saison, format un peu la Melo Ball.
Le niveau a l'air pas mal. surtout.
En fait, c'est orienté développement.
Là, là il est en G-League. Son dernier match, c'est 17 points, 12 rebonds, 6 passes, 3 contre.
C'est un bon joueur de basket. Et le championnat australien et néo-zélandais permettent à chaque équipe d'avoir une somme allouée pour prendre un prospect dans leur équipe. Or, ça fait hors partie du budget, en fait. Ils ont le droit de prendre un gamin pour former.
Alors, ça fait un point pour Arnaud, qui a déclaré, il y a quelques jours, après la défaite à Orlando, j'ai vu des gars en train de rire dans le vestiaire.
Evan Fournier.
Je suis allé voir Ben Wallace pour lui dire que c'était n'importe quoi que ce soit moi le mec suspendu. Alors
ah,
que des gars
c'est Joachim Noah.
Était en train de se marrer après la défaite.
C'est Joachim Noah.
Le
dans
ton est
podcast.
Monté et on a dû nous séparer. Donc Joachim Noah, qui apparemment, je ne l'ai pas écouté, hein, mais a livré un témoignage oui. incroyable à Gigi Redick, qui a un podcast qui podcast cartonne d'ailleurs. Et où il raconte plein d'anecdotes, notamment le jour où il a voulu se battre avec Ben Wallace alors qu'il venait de démarrer sa carrière.
Je sais pas s'il aurait choisi Ben Wallace pour non, le battre.
Tu sais qu'il a démarré au Bulls, il a été suspendu d'entrée de jeu, Joachim Noah. Les joueurs ont dit non, t'es suspendu.
Alors il dit, selon lui, alors ça c'est sa version, que c'est comme ça qu'il s'est fait très vite respecter. C'est-à-dire qu'il était tellement dingo que...
Si tu fais un tête-à-tête avec Ben Wallace, tu prends le respect déjà.
C'est un risque, soit tu prends le respect, soit tu vas direct aux urgences. Non mais... très bon Joachim, n'empêche, qui a réussi ça, qui a du haut de son
caractère, il s'est imposé.
Sa grande gueule, en fait, a réussi à s'imposer dans un vestiaire, c'était pas évident.
C'est tout ça, où il allait en frontal avec les LeBron James, alors que personne n'osait.
C'est pas les plus grands amis du monde, les deux-là.
3 points pour Stephen, 1 point pour Arnaud, 0 pour Fred. On va voir si vous êtes ultra pointu. Où joue Adam Mokoka cette saison ?
Nulle part.
En Serbie ?
Ah, il joue.
Je sais pas, j'ai tenté.
Il joue.
Adam Mokoka.
En G-League ?
Oui.
Ouais, main close, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ?
Oklahoma City ?
Excellent, Fred, bravo. Il joue au Blue d'Oklahoma City après avoir
avec
été
Gang,
coupé d'Oklahoma City.
Justement.
Adam Mokoka a un avenir ? Non, pas d'avenir.
Ah, c'est un peu light.
C'est un peu...
bah ça, c'est une classique.
Ou zéro, comme tu
un
veux.
Un peu light.
Ou sans Mokoka ? Ouais.
Non, ça, il faut revenir en France, là, vite. Pour poursuivre notre discussion tout à l'heure.
Il a joué à Nanterre, après il est reparti en G-League, NBA. Ouais, ça fait partie des cas qu'on a parlé.
Allez, une dernière petite question pour peut-être revenir à un point de Steve avant la question multipoint. Dans quel club Kevin Serafin a-t-il signé pendant le lockout
Barcelone,
en 2011
Vitoria.
Vitoria, absolument. Ça fait Stephen 4 points, Arnaud 1 point, Fred 1 point. Et donc, il nous reste 11 points à prendre.
C'est 11 joueurs à citer.
11 joueurs à citer. Et là, attention. Non, c'est facile. Enfin, c'est facile. Il y a des pièges, mais c'est facile.
Okay.
Par contre, je vais vous donner un point à chaque bonne réponse. Ouais. OK. Mais...
C'est quoi ? C'est un tour de table ?
Un tour de table. Okay. Chacun votre tour, vous allez me donner une réponse. Un point par bonne réponse. Si vous vous trompez, c'est éliminé direct. Parce qu'il y a des choses faciles quand même à trouver avant d'être éliminé.
Très bien, Pierre.
OK ? Vous allez me donner... Donc, il y a 11 bonnes réponses.
Qui commence d'abord ?
C'est Frédéric Weiss qui va démarrer.
Après, c'est Arnaud, après, c'est moi.
Ah, exactement.
Ça m'inquiète déjà.
Vous allez me donner les 11 Français qui ont plus de 400 matchs en NBA.
Oh, il est même petit Mike ou.
Nico Batum,
c'est bon. Un point pour Fred. Arnaud.
Tony Parker,
ouais. Bravo, Arnaud.
Mais pourquoi on prenait risque au début ?
Plus de combien, tu as dit ?
Plus de 400 matchs. Et la barrière est justement pour vous éviter de tomber dans le piège, parce qu'il y en a 11 au-dessus. Et ensuite, il y a un énorme gap. Voilà. Il n'y en a pas à 380, ça n'existe pas.
Très bien, Pierre.
À toi, Steve.
Je vais tenter un Babak, Boris Diaw.
Ah, tu prends aussi beaucoup de risques. Hein.
Alors, vous m'avez donné les trois.
Bah, je vous ai suivi.
Plus capés. Maintenant, on va commencer à rentrer. Bon, dans le dur, c'est vite dit, mais dans des.
Evan Fournier.
Moins facile. Evan Fournier. C'est bon, Evan. Evan est quand même le sixième. Hein. Donc, grosse carrière NBA pour Evan. À toi, Arnaud.
Mike Pietrus
a disputé dans sa carrière.
Je suis en dessous.
626 matchs de NBA.
Mais quoi, attends,
c'est large, ça passe.
Il y a 80 matchs dans une saison.
Oui, mais bon.
Stephen, à toi.
Yann Mahimi.
Oh, Yann Mahimi a disputé 685 matchs NBA, c'est bon. À toi, Fred. Fred, tu peux y aller sans trop de soucis. Là, il y a des choses faciles encore. Hein.
On en a parlé tout à l'heure.
J'ai envie de t'aider, mais ce serait injuste pour les autres.
Ah oui.
Oui, c'est injuste.
Noah.
Joachim Noah avec 732 matchs. Ça passe les doigts dans le nez, Fred.
En fait, le nom me revenait pas.
Là, faut consulter là.
Oui, j'ai des petits problèmes de mémoire.
Arnaud.
Vous êtes.
Il en reste donc 5.
Rudy Gobert.
Rudy Gobert, 623 matchs, c'est bon, ça passe.
Et là, on rentre dans le compliqué.
Il vous reste... Ah, il vous en reste que 3.
400 matchs NBA.
Ouais, plus de 400 matchs.
J'hésite.
Alors, saison régulière plus ce
bien
play-off.
Sûr, bien sûr, j'hésite entre Alexis Ajassa et Joan Petro. Mais je ne sais pas si Alexis Ajassa... Je sais que Joan Petro a beaucoup bourlingué. Je vais aller sur Joan Petro.
C'est excellent.
Ah, avec, je l'avais.
Avec 495 matchs, il vous en reste 2.
Tariq Abdul-Ouad.
Chut. Ah, c'est à toi
c'est
de
à moi,
parler.
C'est alors,
Tariq Abdul-Ouad a disputé 249 matchs. C'est pas bon, Fred.
Ah, merde.
Tu restes à 4 points. Arnaud.
Est-ce que tu peux répéter l'intitulé exact,
oh
s'il te plaît.
Les je Français sur... qui ont joué un minimum de 400 matchs en NBA. NBA.
Joel Embiid.
Il m'a baisé, là. Il m'a baisé.
Clairement.
Allez, je l'accorde. Bravo, Arnaud, je l'accorde.
Il a pas joué 400 matchs en tant que Français.
Non, il est Français.
Non.
Il est Français.
Sans passeport, c'était il y a 4 mois.
Sur son passeport, il n'était pas Français quand il a joué.
Oui, mais il est Français aujourd'hui, donc c'est un fait.
Non, moi je l'accorde, mais c'est sûr qu'il a joué 400 matchs quand même.
Deux saisons, il n'a pas joué d'entrée de jeu.
Oui, mais il a 30 ans, non ? 28 ans ? Ouais, il doit les avoir, les 400
Non,
matchs.
Je crois pas.
Il les a pas, les 400 matchs ?
Non, il est à 338 plus 44 en play-off.
Ça marche pas.
Ça passe pas.
Désolé,
j'ai
Arnaud.
J'ai l'honnêteté d'avoir vérifié,
bravo,
s'il vous plaît.
Désolé, Arnaud, parce que je te l'aurais accordé.
Ouais.
Voilà. Donc t'as gagné le quiz, Stephen, mais si tu veux encore une fois...
Parce que nom que j'ai hésité, je vais donner Alexis Ajassa, mais 400, ça me paraît beaucoup, mais je vais quand même les donner. Il les a pas joués,
Alexis. C'est pas Alexis Ajassa.
Kevin Serafin, il a joué 400.
Kevin Serafin, 437, et Ronny Turiaf, 520. Victoire sans appel de Stephen Brun à la semaine prochaine.
Ciao.
RMC Basket Time.